Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Christophe Paco. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Avec à la une ce soir, la suite du combat contre les flammes en France et notamment en Gironde, où nous allons retrouver dans un instant nos envoyés spéciaux Valentin Boisset et Philippe Demaria sur place dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron et la Lozère. On surveille toujours de très près l'évolution de ces multiples départs de feu depuis plusieurs jours et des conditions météo toujours pour le moins défavorables en ce moment. Anthony Kazmarek.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Oui, toujours ce soleil brûlant demain en Gironde et dans les Landes avec des températures qui n'aident pas. 37 à 40 degrés encore demain après-midi et un air très sec jusqu'à ce que le vent d'ouest prenne le relais en fin de journée et ramène un air océanique. Mais le problème, c'est que cela risque à nouveau de faire changer le feu de direction. Et puis dans le Maine-et-Loire, conditions encore compliquées demain, 35 à 37 degrés, un air encore plus sec qu'en Gironde et toujours ce vent d'est à 40 km/h qui maximise la reprise des flammes. Partout ailleurs demain, encore du soleil, du vent d'est aussi dans toute la moitié nord et puis à nouveau quelques averses sur les reliefs et attention, retour du Mistral et de la Tramontane demain dans le sud-est. Les températures seront caniculaires, généralement de 33 à 41 degrés demain après-midi et toujours 19 départements de l'ouest en vigilance orange canicule. La Haute-Vienne a rejoint la liste ce soir.
Vigilance de mise, on l'a bien compris, ce sera notre fil rouge ce soir, la météo bien sûr, comme tous les soirs en ce moment, jusqu'à 19h15. L'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la Roumanie et l'Autriche vont venir en aide à la France pour tenter au plus vite de réduire l'intensité de tous ces feux partout, on le sait, sur notre pays, sur la métropole. Et puis le bénévolat qui fonctionne à plein chez nous. Heureusement, les pompiers volontaires, par exemple, en entreprise, sont appelés à se présenter dans leur région sur les sites encore touchés par les incendies. David Macri est l'un de ces pompiers volontaires. Il prépare son sac, il sera avec nous dans un instant. Tout comme le général de division Samuel Dubuis, qui est en charge, lui, de la région de gendarmerie de Nouvelle-Aquitaine, pour faire un point complet ce soir sur les mesures mises en place et sur la coordination sur le terrain. À suivre dans RTL Soir également, évidemment, toutes vos chroniques de l'été, notamment 7 jours sur 7 reportages. On sera dans le Morbihan avec Léonard Cassette. Et puis nous parlerons de tendance de l'été, tout de même, avec la folie du stand-up paddle un peu partout sur les flots autour de nos terres. Sans oublier, laissez-vous tenter juste avant 19h avec ce soir un invité exceptionnel, le chanteur suisse Stéphane Escher. Sans oublier votre plateau télé, ce sera juste avant 19h. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL.
RTL Soir.
Le journal Christophe Paco.
Une nouvelle journée en enfer. Et le secteur de l'Andiras en Gironde, toujours le plus incandescent en ce moment. Un feu qui se déplace avec des reprises de certains foyers ici et là. Aussi, sans plus tarder, nous allons retrouver l'un de nos envoyés spéciaux, Valentin Boisset. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et vous avez pris, Valentin, il y a quelques minutes, la direction de Samagne, où la situation est la plus critique à l'heure où l'on se parle.
Et oui, nous nous sommes rendus sur le front du feu et la situation est effectivement critique. À notre arrivée, il y avait une colonne de fumée noire qui surmontait la route départementale. Une ligne de feu est alors à 200 mètres, mais sa vitesse est très rapide. Les flammes avancent 200 mètres en 10 minutes vers nous. À notre droite, les camions de pompiers se hâtent. 5 lances à eau sont déroulées sur le sol.
Ici, on peut voir les flammes qui arrivent. L'enjeu pour nous consiste à ce qu'ils ne dépassent pas cette route-là. Dans 5 minutes, on bouge. Dans 5 minutes, il sera sur nous. Je dirais à 200 mètres. Regardez. Voilà, ça arrive là.
Oh
hein ?
Moins que 5 minutes. Hein.
Ouais, il va être sur nous. Vous voyez, on a les flammes.
Il arrose tout le bord jusqu'à 500 mètres après la croix. Parce que j'arrive pas à le joindre, donc ça, on perd du temps.
Et vous l'entendez, une tension s'installe car les Canadairs ne peuvent pas agir. Les flammes font 20 mètres de hauteur. Un hélicoptère vient finalement épauler cet équipage un peu débordé.
Ça brûle dessous et donc ça grignote, ça grignote, ça grignote. Comme on a de la fougère sèche partout, derrière ça gagne, la fougère prend et les pins prennent. Donc si vous voulez, ça grignote, ça grignote, ça gagne. Même s'il y a du vent, c'est tellement sec que le feu grignote de partout aujourd'hui.
Ce soir, ce front n'est pas contrôlé. Il continue d'avancer, attisé par des températures extrêmes, près de 45 degrés à proximité du brasier.
On comprend, on imagine même les images en vous écoutant. Merci mille fois, Valentin Boisset, pour toutes ces précisions. Pas loin de vous. On va retrouver également autre envoyé spécial d'RTL ce soir, Philippe Demaria, qui est à Ostens, au centre opérationnel. Bonsoir, Philippe.
Bonsoir.
Vous êtes donc sur le terrain. Là, vous êtes vraiment au cœur de la chaîne de prise de décision ce soir. Les hommes, bien sûr, les animaux, la logistique, c'est crucial, tout ce qu'il faut repérer en cette période de combat contre les flammes. Comme on peut parler, bien sûr, par exemple, du logement ou encore de la nourriture, bien sûr, Philippe.
Oui, sur une grande tablée, des bénévoles fabriquent des sandwichs à la chaîne. Le pain est frais, les ingrédients de qualité. Ghislaine dirige la manœuvre.
Alors, ça va être des sandwichs au thon, il y a au jambon, fromage, il va y avoir au surimi, sans compter tous les repas qu'il y a au chaud, parce qu'il y a des salades, tous les fruits qui ont été coupés.
Dans la vie, elle est chargée de mission au département.
Au lieu d'être enfermée dans les bureaux, il faut bien qu'on serve quelque chose et à sauver notre patrimoine d'une autre façon.
Alors, que pensent les pompiers, les principaux intéressés, des menus proposé.
C'est bon, il y a tout pour se rassasier. Ouais. Aussi bien des fruits, des légumes, 5 fruits et légumes par jour.
Important pour un pompier.
Exactement, c'est vrai, la diète c'est important.
C'est le département de la Gironde qui organise et qui finance l'accueil de ces centaines de pompiers. Le président Glaise anticipe la venue des renforts européens.
Alors 350 personnes a priori qui vont arriver. Nous avons déjà aujourd'hui sur site, ici sur le domaine départemental de Stains, 1100 pompiers qui sont présents. On sert entre 1300 et 1400 repas, donc il va falloir imaginer 350 repas de plus. Et donc les sapeurs-pompiers nous disent combien ils apprécient d'être bien accueillis, bien hébergés, bien restaurés. Et donc j'imagine que les Européens vont trouver que le Sud d'Irlande est un lieu, un pays de cocagne absolument magnifique.
Et ces renforts européens sont attendus ce soir ici à Ostens.
Oui, ça arrive un peu de partout, heureusement, cette solidarité et ces renforts bien précieux. Avec nous, auprès de vous d'ailleurs, Philippe de Maria, pas très loin, le général de division Samuel Dubuis. Bonsoir à vous.
Bonsoir, monsieur Paco.
Vous commandez la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine. C'est important, ce témoignage-là, que c'est tous ces témoignages qu'on vient d'écouter, que ce soit sur le terrain contre le feu ou pour simplement nourrir les hommes partout sur le terrain.
Écoutez, pour me trouver au PC interservice qui a été installé donc à la frontière entre le département de la Gironde et des Landes à Ostens, je vous confirme que l'organisation logistique est parfaite et elle contribue assurément au bon moral des troupes, à la fois des pompiers français et étrangers qui arrivent ce soir, mais également des bénévoles qui sont à nos côtés, et puis bien évidemment des gendarmes que je commande.
C'est formidable cette solidarité et cette organisation qui est millimétrée, on l'a bien compris. Les forces étrangères qui vont arriver, c'est important pour vous, pour soulager notamment les moyens aériens?
Alors écoutez, là ce domaine relève pour l'instant plus de la responsabilité des sapeurs-pompiers.
Bien sûr.
Mais j'ai eu l'occasion tout à l'heure avec le préfet délégué à la sécurité d'accueillir les précurseurs allemands. Donc tout de suite, ils sont au travail avec nous dans un local qui a été spécialement dédié. Et nous attendons également des Grecs, des Roumains, des Autrichiens. Donc vraiment, le travail est fait en grande proximité et je pense qu'il portera très vite ses fruits.
Mais quand je parle de prévision, à chaque fois de prise de décision qui sont millimétrées, c'est qu'on a l'impression que tout le monde est à sa place. Est-ce qu'on a ce sentiment, vous aussi, là-bas, sur place, dans ce centre de coordination?
Alors c'est un centre de crise qui fonctionne de manière nominale, qui est présidé bien évidemment par le préfet délégué à la sécurité, donc qui réunit un peu les acteurs des différents services à intervalles réguliers. Et bien évidemment, la cadence est un peu donnée par le directeur départemental des pompiers. Donc c'est lui, en fonction de l'évolution de la situation, qui nous fixe un peu en direct ces impératifs, notamment en matière d'évacuation des villages. Et ensuite, nous, les gendarmes, nous procédons en relation étroite avec les élus et les bénévoles à ces évacuations. Les délais pour réaliser ces évacuations sont corrects, donc ça ne se fait pas dans la précipitation. Cette cellule de crise permet vraiment d'avoir une anticipation, de partager l'information. Elle est essentielle à l'efficacité du dispositif.
Général, on a parlé de près de 10 000 personnes évacuées, peu sont rentrées pour l'instant à la maison. Est-ce qu'on peut encore craindre des évacuations dans les heures à venir?
Alors écoutez, le dernier point nous laissait à penser que le feu progressait désormais vers le nord, donc vers la commune du Barp. Donc au moment où je vous parle, effectivement, nous sommes en train de planifier une nouvelle vague d'évacuation plutôt au nord de l'incendie. Donc comme je vous le disais, cela se fait en coordination étroite avec les élus qui sont au contact des sous-préfets, qui mobilisent éventuellement des bénévoles. Moi j'ai l'occasion vraiment de les voir sur le terrain. Et puis nos gendarmes commencent leur travail de sectorisation, de porte à porte, pour expliquer pédagogiquement aux gens qui effectivement attendent cette décision la manière dont cela va se procéder. Et je tiens vraiment à préciser que les choses ne se font guère dans la précipitation, anticipées, comprises, expliquées.
Et le rôle de vos gendarmes, bien sûr, c'est encadrer ces évacuations, c'est rassurer la population, c'est aussi protéger les biens d'éventuels larcins ou au-delà des flammes.
Oui, alors une fois que le dispositif est évacué, une fois que qu'on a l'assurance que le village est déserté de ses habitants, nous maintenons une présence de gendarmes départementaux, de gendarmes mobiles, bien souvent avec le concours des hélicoptères de la gendarmerie, et nous permettons effectivement de sécuriser en l'absence des résidents ces villages, effectivement contre les cambriolages ou d'autres atteintes aux biens.
Dernière précision, on est encore loin du stade de l'enquête, hein, général, mais on sait que, on l'a bien compris, même avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il y a quand même des départs de feu qui sont criminels aujourd'hui. On va vite comprendre qui a pu faire ça.
L'ensemble des moyens judiciaires dont je dispose sont déployés. Il y a une cellule d'enquête sur le feu de Landiras qui est au travail depuis une vingtaine de jours. Et aujourd'hui, à chaque départ de feu, il y a une jonction des renseignements. Il y a vraiment une grande transversalité. Hein, le but étant vraiment de raccrocher les départs de feu à un auteur potentiel. Et ce que je souhaite également évoquer, c'est que nous avons décidé également de renforcer la dissuasion. Donc aux abords de l'épicentre du foyer, nous voulons éviter que les pompiers soient confrontés à d'autres départs de feu. Et c'est pour cela que nous avons mis en œuvre un peloton de vigilance forêt qui est armé par des réservistes, nos bénévoles à nous, bon, bien sûr qui sont rémunérés, et qui aujourd'hui offrent un complément dans la manœuvre qui est essentielle. Ce sont des gens qui patrouillent dans les pistes avec des motos tout-terrain, et qui eux aussi bénéficient du concours de l'hélicoptère pour les renseigner dans la profondeur.
Merci pour toutes ces précisions. En direct du centre opérationnel, le général de division Samuel Dubuis, notre invité ce soir. Vous commandez, je le rappelle, la région de gendarmerie Nouvelle-Aquitaine. Bon courage à toutes vos équipes. Merci mille fois d'avoir été en direct, vigilance toujours de pair, puisqu'on combat en Gironde, on a compris. Ailleurs, on essaie de fixer tous ces feux, notamment entre le Mans et Angers, dans le Maine-et-Loire. 1500 hectares qui sont partis en fumée depuis ces dernières heures. Il faudra attendre encore un petit peu de temps, encore un peu, pour un retour à la maison, notamment pour les personnes qui ont été évacuées dans l'urgence. Pierre-Baptiste Vanzini.
Oui, effectivement, il y a 80 personnes qui ont été déplacées. Parmi elles, 20 patients d'un établissement de soins pour personnes trisomiques qui ont trouvé refuge dans une congrégation religieuse. Pour le reste des habitants comme Marie-Claude et Micheline qui ont dû partir de chez elles précipitamment mardi. Le temps commence à être très très long.
On n'est pas prêt de retourner dans notre maison. Hein. Heureusement que j'ai des amis. On attend et on évite d'embêter les pompiers. Quoi.
On voit ça ailleurs mais on ne s'imagine pas qu'un jour ça peut être chez nous.
Que voulez-vous ? Pour qu'ils nous sauvent notre maison, c'est tout. Mais bon, on peut leur tirer notre chapeau. Hein.
Alors elles viennent au renseignement à la salle des fêtes transformée en centre de crise. Mais le maire du village, Philippe Chalopin, ne peut pas faire de miracle.
J'ai pas de date précise ni d'horaire précis. Par contre, il est vraisemblable que ça ne sera pas aujourd'hui. Il faut à la fois qu'ils puissent revenir en toute sécurité, l'électricité a été coupée, qui dit habitants dit circulation, on a encore des véhicules incendies qui circulent et ça nous paraît compliqué. Enfin, moi j'attends le feu vert et on informera les habitants à ce moment-là, mais aujourd'hui c'est certainement compromis.
Toute la journée, les pompiers assistés par un hélicoptère de la gendarmerie ont surveillé les reprises d'incendie dans les 21 km du périmètre. 1500 hectares ont déjà été dévorés par les flammes.
Merci beaucoup Pierre-Baptiste Vanzini, donc dans la région du Maine-et-Loire, qui surveille tous ces feux, bien sûr, même si c'est fixé. Soyez prudents, on le rappelle ce matin, Grégory Lyon, le patron des sapeurs-pompiers, mettez en garde notamment dans les balades en forêt, pas de cigarettes, par barbecue, attention avec les mobilettes ou avec un pot d'échappement qui peut tomber. Soyez très prudents. Dans un instant, on va parler de solidarité, on va évoquer le cas des pompiers volontaires. On tout de suite.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Et ce dossier spécial incendie ce soir encore, évidemment, dans RTL Soir. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui a lancé un appel aux entreprises pour libérer au mieux et au plus vite les pompiers volontaires. Déjà, certains patrons ont pris leur disposition. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir.
Par exemple, l'opérateur téléphonique Orange qui a déclenché tout de suite le processus.
Oui, le DRH du groupe vient de donner l'instruction ce matin de déplafonner le nombre de jours d'absence autorisés pour les sapeurs-pompiers volontaires. Actuellement, il disposait en fait de 15 jours au total dans l'année, mais face à la situation qui est exceptionnelle, il faut le rappeler, ce seuil peut donc être dépassé depuis ce matin. Les employés d'Orange doivent se rapprocher de leur manager et ont l'autorisation de partir pour lutter contre les feux de forêt. En contrepartie, l'entreprise continue à payer leur salaire normalement. Ce dispositif de jours d'absence, il a été mis en place il y a un an au sein du groupe et une convention a été signée avec les autorités pour cadrer les choses. L'entreprise, elle réfléchit d'ailleurs à élargir cette initiative à d'autres engagements comme celle de la réserve citoyenne. Ces dispositifs, ils sont assez nouveaux, bien sûr, dans les grandes entreprises qui ont les moyens, il faut le rappeler. et c'est souvent beaucoup plus compliqué dans les plus petites structures où les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent pas se libérer évidemment aussi facilement.
Vous restez avec nous, Arnaud Touche, parce
avec
que
plaisir.
Justement, on parle de la difficulté pour les petites entreprises.
Oui.
Il fait partie d'une grande entreprise. C'est David Macri qui est avec nous, qui est connecté depuis Sobrenat dans l'Ain. Bonsoir à vous, David Macri.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Je peux citer la marque pour laquelle vous travaillez, le grand distributeur ?
Bien sûr.
C'est Carrefour, évidemment, qui est donc une de ces grandes sociétés. C'est une première pour vous ? Vous avez déjà été envoyé en mission ?
Alors non, c'est pas une première pour moi et pour les sapeurs-pompiers volontaires du groupe, puisque je pense que, voilà, en étant la première entreprise privée en France, nous sommes un nombre certain de sapeurs-pompiers volontaires et nous avons déjà été engagés, pour ma part, sur le premier feu en Gironde au mois de juillet.
D'accord. Et là, vous êtes prêt à partir, donc vous êtes mobilisable, comme on dit.
Exactement. Donc le sac est prêt. En cas de demande, eh bien, c'est parti. En sachant que, à l'heure où je vous parle, le SDIS de l'Ain, dont je fais partie, a déjà déployé 30 sapeurs-pompiers volontaires. Dans la Gironde, 20 sapeurs-pompiers volontaires, volontaires, 30 sapeurs-pompiers et 20 sapeurs-pompiers, pardon, au niveau du Jura, la mobilisation est extrême.
Arnaud Touche ?
Oui, comment ça se passe directement avec vos managers ? Vous devez partir en combien de temps ? Parce que souvent, évidemment, les appels sont rapides. Comment vous faites pour vous organiser en interne ?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà deux types d'organisation. Il y a d'un côté l'organisation des services d'incendie et de secours, qui nous permettent de se positionner sur des semaines que l'on choisit, c'est-à-dire qu'il faut aussi concilier notre vie privée. Donc ça, c'est des semaines que nous, on donne au préalable. Suite à cela, il y a un planning qui est défini sur les semaines qui ont été retenues. Et sur ces semaines retenues, je vois avec ma hiérarchie, donc qui est en parfaite harmonie avec mon engagement, qui comprend parfaitement. Et donc, du coup, je les préviens, c'est-à-dire que voilà, on organise le travail de façon à que sur ces semaines-là, en cas de départ, je puisse partir très rapidement en leur envoyant un SMS en disant je dois quitter mon poste, je suis engagé sur les feux.
Et dites-moi, vous, parce qu'Arnaud le précisait, normalement c'est quoi ? C'est une durée de 15 jours, c'est ça ? Ou plus, peut-être même par rapport aux circonstances aujourd'hui ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà discuté avec votre direction ?
Alors ça, c'est par rapport les fameux 15 jours que vous parlez, c'est les 15 jours sur peut-être la convention au niveau avec Orange, au niveau de chez Carrefour. Je sais qu'il y a des choses qui sont dans les tuyaux depuis un an. Je pense qu'elle va ça va avoir le jour très prochainement.
Très prochainement, bien sûr.
Tout à fait.
Question très pratique, vous me répondez si vous le souhaitez ou pas. C'est l'argent, bien sûr, parce que là, vous êtes payé normalement. Est-ce que vous avez des frais supplémentaires, un bonus, je ne sais pas.
Alors, en fait, on va dire que c'est moi, la passion qui m'anime. C'est le volontariat, c'est servir, c'est aller apporter de l'aide là où il y a besoin, que ce soit sur mon département ou sur d'autres territoires. Ensuite, effectivement, on va dire que sapeur-pompier volontaire perçoit une indemnité. Cette indemnité, elle est connue de tous. Ensuite, c'est selon les grades, oui. Pour vous dire, ça fait
en gros, une fourchette, hein.
Bientôt 30 ans que je suis sapeur-pompier volontaire, je serais infoutu capable de vous donner mon indemnité pour vous dire à quel point
c'est une
ça
mission.
Passe, mais vraiment en second point.
Mais donc, votre salaire n'est pas maintenu.
Après, au niveau de Carrefour, au niveau Carrefour, l'avantage du tweet de notre patron Alexandre Bompard, ça met les choses très claires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le territoire français, on est impacté un peu de partout. Voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, tous les sapeurs-pompiers volontaires qui sont autour de feux, qui sont très importants, pourront être déployés très rapidement sur le terrain, avec bien évidemment l'accord pour pas désorganiser toute une entreprise. Comprenez bien qu'une personne à la caisse ne peut pas quitter sa caisse à l'instant T et laisser le client. Voilà, c'est encore une chose qui se
discute aujourd'hui. Mais la volonté est là, en tout cas.
Qui s'organise et qui se... Exactement.
Merci David Macri d'avoir accepté ce témoignage. On vous souhaite évidemment un bon retour sur le terrain aussi, parce que c'est important pour aider vos collègues, tous ceux qui partent, qu'ils soient de Carrefour ou d'Orange, de grandes enseignes. C'est bien cela, Arnaud Touche.
Absolument.
Merci à vous pour ce dossier très complet. 18h20 dans un instant, la page étrangère évidemment, et puis les sports aussi.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
À 18h20, la suite de votre journal et de nouvelles grosses inquiétudes au cœur de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia. De nouvelles explosions ont été constatées aujourd'hui à quelques kilomètres, évidemment, de cette centrale. Et ce, près d'une semaine après les tout premiers incidents dans cette zone ô combien à haut risque. Bonsoir à vous, Bénédicte Tassard.
Bonsoir.
De nouveau, en tout cas, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement d'avoir bombardé cette centrale.
Oui, alors il y a quelques minutes, l'opérateur ukrainien a fait état d'un bombardement russe sur la centrale, tout près d'un réacteur. La situation empire, plusieurs capteurs de radiation sont endommagés, précise l'entreprise Energoatom. Déjà en milieu d'après-midi, deux salves de 5 coups avaient été entendues dans le périmètre de cette plus grande centrale nucléaire d'Europe. Pardon, on a vu de la fumée s'échapper, mais juste après, le chef de cette région contrôlée par les Russes indiquait qu'il n'y avait aucune fuite.
Aucune fuite là-bas sur place pour l'instant, en tout cas. Mais ça, on le comprend bien. Mais il y a de l'inquiétude partout. Il y aura même une commission qui va se réunir pour surveiller évidemment ces explosions et la dangerosité autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Merci à vous, Benito Tassar, chef du service étranger d'RTL. Et puis, avec cette période de guerre, bien sûr, la flambée des cours de l'énergie est là et bien là. Et vous savez, pour nous consommateurs, l'époque des incroyables promotions sur les billets d'avion semble chez les transporteurs comme, que vous connaissez, comme EasyJet ou encore Ryanair, qui cassent les prix depuis près de 2 décennies maintenant. C'est simple, hein, forget it, comme on dit là-bas en Angleterre. Oubliez dès à présent la recherche des billets à moins de 10 euros sur vos tablettes, Marie Billon.
Oui, Ryanair s'est fait une réputation de ligne aérienne très abordable. Mais la hausse des prix du pétrole à cause de la guerre en Ukraine compromet son modèle économique. C'est ce qu'a dit sur la BBC son chef exécutif, Michael O'Leary.
Nos prix les plus bas, le billet à 1 euro ou à 99 centimes et même ceux à 9,99 euros ne seront pas possibles pour ces prochaines années. Mais y aura-t-il des prix bas? Oui.
Des prix bas donc, mais moins qu'avant. Les billets coûtant actuellement 40 euros vont devoir passer à 50 euros au cours des prochaines années, annonce Michael O'Leary. Il estime que les compagnies aériennes classiques devront aussi augmenter leurs prix et est donc persuadé que Ryanair restera le choix des vacanciers au budget serré et il ne doute pas que les gens voudront toujours s'offrir des petites vacances au loin. Michael O'Leary estime aussi que le Royaume-Uni connaît encore plus de difficultés que les autres pays dans les aéroports à cause du manque de personnel qu'il met sur le compte du Brexit qui a mis fin à la liberté de mouvement des travailleurs et ralenti le flot des vacanciers aux douanes.
D'accord, Marie Billon, correspondante permanente en Grande-Bretagne pour RTL. L'Arctique s'est réchauffé près de 4 fois plus vite que le reste de la planète au cours de ces 40 dernières années, c'est le fruit d'une longue étude qui est publiée aujourd'hui dans un magazine de nature. On rappelle combien de départements sont en vigilance ce soir ?
19 départements en vigilance orange canicule, de l'Atlantique jusqu'à la plaine toulousaine et la Haute-Vienne s'est rajoutée ce soir à la liste.
Les plus chaudes températures un peu partout en France, c'est quoi ? Par exemple à Mont-de-Marsan, La Rochelle, des régions bien ciblées en tout cas, Anthony Kazmarek ?
On sera autour de 38 pour La Rochelle et sans doute 40-41 degrés dans les Landes du côté de Mont-de-Marsan notamment demain.
Et je vous amène à Lille, il fait toujours très très chaud là-bas aussi, hein. C'est vrai. Il y a combien à peu près dans cette région ?
34 dans le Nord.
Samuel Duhamel est avec nous et ses fortes chaleurs, en tout cas, n'ont pas découragé les touristes aujourd'hui.
Oui, malgré les 34 degrés au thermomètre, la grande place de Lille grouillait de touristes cet après-midi, souvent à la recherche d'ombre. Salomé, elle, s'est assise à côté de la fontaine pour essayer de se rafraîchir.
À Lille, on est un peu enfermé, il n'y a pas l'air de la mer que j'aime beaucoup. Mais à côté de la fontaine, là, ça va encore. Je me rafraîchis avec la glace.
Les terrasses des bars et brasseries sont fortement fréquentées et cela oblige les gérants d'établissements comme Martin à s'approvisionner en eau beaucoup plus qu'à la normale.
En eau plate, en eau pétillante, c'est une catastrophe. On remplit nos frigos tous les jours et on a limite du mal à se fournir tellement il y a une grosse demande. Forcément, il fait très chaud.
Dans son magasin de vente de souvenirs, Corentin s'hydrate en quasi-permanence et s'est préparé à cette nouvelle vague de chaleur.
On a des petits ventilos au niveau de la caisse. On a un énorme ventilo qu'on a installé il n'y a pas si longtemps justement pour propulser de l'air et essayer de faire au mieux pour les clients. Ça aide, mais il fait quand même bien chaud.
Pascal, lui, arrive de Bourges et apprécie sa visite du centre-ville malgré les températures très élevées.
Lille, c'est joli. Je découvre, donc c'est joli. Donc heureusement que c'est agréable parce que le climat, il cogne quand même.
Et cela va continuer à cogner. Il devrait faire encore plus chaud à Lille ces 3 prochains jours.
34 degrés, il fait très très chaud à Lille. Ouais. Merci à vous Anthony Kazmarek et Samuel Duhamel qui est en duplex avec nous. 18h25, juste un petit mot de sport. Ça fait du bien à Français qui gagne, oui.
Bah oui.
Même à vélo. Guillaume Martin vélo. Qui bah était oui. parti pour cause de Covid sur le Tour de France, qui est revenu en forme dans le Tour de l'Ain, il vient de le remporter après la toute dernière étape. La météo à venir dans 5 minutes et toutes vos chroniques dès le temps. On va parler même paddle dans 10 minutes.
RTL Soir. RTL.
À quoi on joue dans la voiture ?
Laurent Marcy.
classique.
Toujours important de faire un petit jeu comme ça en dernière minute, d'improviser heureusement. Si vous n'avez pas d'idée, Laurent Marsic est là et tous les soirs vous donne un petit conseil. Belle petite idée en tout cas pour occuper les enfants en voiture et ce soir, c'est tout en couleur.
Voici un jeu tout simplement basé sur l'observation. Par exemple, ce que tu peux voir en ce moment à travers les fenêtres de la voiture. Alors, il faut un juge, celui ou celle qui conduit par exemple. Bonjour madame, c'est vous qui allez décider de la durée du jeu, ce peut être jusqu'au prochain péage. Le jeu des couleurs peut alors commencer. La conductrice, s'il vous plaît, donne une couleur.
Je choisis la couleur verte.
Très bien, tous les autres joueurs doivent alors citer à tour de rôle tout ce qu'ils voient de la même couleur à travers les fenêtres de la voiture.
Une colline,
un arbre,
une voiture,
gros camion.
Et le perdant est donc celui qui, par exemple, cite deux fois le même objet.
Un arbre.
Un arbre, on l'a déjà dit.
Ou qui n'arrive pas à en trouver un, qui bloque, qui pédale dans la semoule. Et maintenant, à toi de jouer.
Quelle couleur, là ? Quelle couleur, RTL ?
Le rouge,
rouge
évidemment.
Et le blanc dedans. Bien écrire. Hein. D'accord. Mais il est bon,
j'ai pris des notes.
Attention, Laurent Marsic va être jaloux parce que vous êtes trop fort. Vous allez faire la prochaine chronique. Toutes les chroniques de Laurent Marsic sont à retrouver tout cet été dans le podcast RTL Albin Michel Jeunesse. Lis-moi une histoire.
RTL.
7 jours, 7 reportages.
On adore, hein, depuis le début de l'été, on vous amène un petit peu partout. On file dans le Morbihan. En Bretagne, nous attend ce soir Léonard Cassette. Bonsoir à vous.
Bonsoir à toutes et à tous.
Tous les soirs avec les Français en vacances, mais aussi avec ceux qui travaillent, bien sûr. Là, vous êtes, on situe, c'est la capitainerie du port du Crouesti, c'est bien cela, à Arzon.
C'est ça, le Crouesti.
Crouesti, j'adore, près de Vannes. On a envie d'en manger quand tu parles de Crouesti, tu vois. Justement, près de ceux qui travaillent, ceux qui accueillent les plaisanciers dans le port, c'est le moment ou jamais d'être avec eux. Visiblement, c'est une vraie ruche, hein, ça bouillonne, ça bourgeonne, et ça s'entend de tous les côtés, il y a du monde derrière vous. Parce qu'Arzon, oui, c'est l'un des ports de plaisance, on le rappelle, les plus importants de Bretagne. En tout cas, c'est le plus gros du Morbihan.
Ouais, plus de 1400 places dans l'eau et d'autres en plus à terre. Donc le port de Crouesti, il est tout simplement énorme. Il faut marcher de longues minutes pour en faire le tour. Mais du coup, vous vous en doutez, Christophe, c'est une véritable machine. Et pour piloter tout ça, ça commence à la capitainerie. C'est un peu la tour de contrôle du port où on fait la liste des places disponibles. Et forcément, ça bouge tout le temps, comme l'explique Delphine.
Moi, je suis là depuis 7h ce matin, où on a fait un relevé intégral du port avec un collègue sur l'eau. On sort après tout un tas de listes qui nous permettent de gérer notre journée. On a le téléphone qui sonne sans cesse et on a la VHF qu'on entend tout le temps de tous les ports et aussi de nos collègues. Donc, il faut être vigilant partout.
Il faut avoir des oreilles partout, en fait.
Exactement, des oreilles partout.
Les différences de couleurs sur votre écran entre les bateaux, il y en a des verts, des bleus, oranges.
Oui, ce sont les différents contrats, en fait. Les bleus, ce sont les places à l'année. Les verts, ce sont les clients de passage qui viennent ponctuellement comme ça.
Mais il y a un vrai turnover en fait chaque jour.
Ah oui, ça bouge tout le temps.
Ça bouge tout le temps, c'est fou. Hein, comment on fait alors au moment de tous ces départs là? C'est un peu incroyable parce que ça arrive de tous les côtés, j'imagine.
Et justement, là, c'est à l'extérieur que ça se passe, directement sur l'eau, en Zodiac. Là, je suis avec Jean-Marc, c'est le directeur du port, et on est juste à côté de la zone de mise à l'eau des bateaux qui sont stockés à terre.
Ça va naviguer beaucoup aujourd'hui.
Donc là, c'est grosse journée pour la capitainerie.
Grosse journée donc pour la capitainerie. Et puis l'ensemble des équipes, l'envoi avec la manutention, avec les nombreux bateaux pour lesquels les clients nous ont demandé de les mettre à l'eau pour les naviguer aujourd'hui. Là, on devrait en faire, je pense, une cinquantaine ce matin. Et le placement des bateaux qui vont arriver. Là, on a un petit bateau devant nous avec un personnel du port qui vérifie les emplacements qui sont théoriquement libres.
Et s'ils le sont bien.
S'ils le sont bien, et une fois que c'est vérifié, on peut placer des bateaux.
Ouais, ça va. Ils arrivent quand même à s'en sortir avec toute cette activité là, en ce moment.
C'est une machine bien huilée. Hein. En été, le port, c'est près de 50 personnes qui travaillent pour que tout roule. Et Alexandre, lui, il a une place super importante parce que c'est lui le placeur, celui qui guide les bateaux sur le port.
Du coup là je vois que vous avez plein de listes avec vous sur un petit calepin, ça vous sert à quoi?
C'est toutes les listes des places qui sont disponibles, chez la largeur, la longueur, la durée.
Vous vous baladez toujours avec un toki avec vous du coup?
Alors, j'ai toujours une VHF pour pouvoir être en communication avec la capitainerie et puis les plaisanciers quand ils nous appellent pour avoir une place.
Bon on va espérer qu'il y en appelle.
Oui. Dans le bassin visiteur on a des places qui se sont libérées avec le rôle de placeur dans le port. Il faut avoir une main sur la commande de gaz, une main sur la barre et en même temps une main sur le crayon pour pouvoir placer les bateaux et écrire le nom, le modèle. Il y a vraiment deux rushs dans la journée au placement, c'est vers 14h et entre on va dire 17h30 et 19h où là il y a tous les plaisanciers qui rentrent, plus des bateaux qui viennent en clients de passage. Là ça fait beaucoup de monde dans le port.
Pour te dire là il y a un bateau qui cherche une place, c'est le RM.
tu maîtrises la conduite, hein, parce que c'est passé très proche là.
Oui, allô.
Oui, tu auras un service de rade au quai d'honneur.
Ok, ça marche.
Et vous arrivez à savoir quand on s'adresse à vous sur la radio? Parce que moi, franchement, je comprends rien.
Là. Alors, quand on s'appelle entre nous, on sait, parce que du coup, on s'appelle par nos prénoms. Mais sinon, s'il y a un bateau qui appelle le port du Croisty, c'est forcément le placeur qui répond.
Oui, vous êtes un peu la tête pensante du port.
C'est ça, voilà.
Oui, et vu l'activité en ce moment, en fin de journée, j'ai laissé tout le monde travailler tranquillement. Et en tout cas, je peux vous dire que c'était assez impressionnant.
Dites-moi, demain, c'est vendredi?
Demain, c'est vendredi.
C'est jour de poisson, n'oubliez pas, avec Jérôme Florin, vous avez un petit défi, non? Vous verrez entre vous demain matin. On vous retrouve demain soir dans RTL Soir. Salut, merci, bonne soirée au Croisty. Léonard Cassette, 7 jours, 7 reportages, 18h32.
RTL Soir,
avec Christophe Paco.
Avec le rappel des grands titres de l'actualité ce soir, à la une, bien sûr, la suite du combat contre les flammes partout en France, notamment en Gironde. 7400 hectares brûlés depuis le début pour ce deuxième incendie de Landiras. Tous les nouveaux feux sont d'origine humaine. Il y a un périmètre qui est à conserver, qui est au moins de 40 km, évidemment. 361 pompiers, 101 véhicules européens. Au total, ont pris la route pour venir porter main forte, évidemment, l'appel à l'aide de la France. Du côté de la Roumanie, on envoie par exemple 77 pompiers, 14 véhicules. 65 pompiers, 24 véhicules allemands également qui arrivent dès ce soir en Gironde, nous précisait notre invité tout à l'heure. Bien sûr, attention, surveillez l'évolution des feux également dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron ou la Lozère. Carte météo avec vous, justement, sans plus tarder, Anthony Kazmarek.
Et on a battu des choses cette nuit encore. Oui, exactement, parce qu'on a déjà battu des records de chaleur aujourd'hui. Donc la chaleur va rester cette nuit. Il a fait 41 degrés à Aïssiritz dans les Pyrénées-Atlantiques aujourd'hui, battant le record de 2003. Et puis record absolu en Vendée sur l'île Dieu. Avec 36 degrés, jamais il n'avait fait aussi chaud depuis 1944. Demain, on reprend les mêmes températures et le même ciel, toujours du soleil, du vent de nord-est dans la moitié nord. Retour malheureusement du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée jusqu'à 50 km/h en rafale et encore quelques gouttes possibles sur les reliefs, voire un orage vers les Pyrénées. Les températures demain, toujours globalement de 33 à 37 degrés, un peu moins en bord de Manche et encore 38 à 40, voire 41 degrés pour la Vendée, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la vallée du Rhône.
On jette à l'eau ?
Allez, on y va.
Vous voulez bien ?
Bah bien sûr.
Un tout petit peu, ça va nous faire du bien, ouais. Pour ceux qui peuvent profiter à fond de leurs vacances, notamment. Il y a un sport qui fait fureur, vous le savez, depuis un petit moment, mais c'est encore plus fort aujourd'hui, je trouve. Il y a plus de, je sais pas si vous êtes promené un petit peu, mais il y a de plus en plus de paddle. Vous savez, les stand-up paddle, c'est pas la raquette, hein, on l'a dit. On va y revenir avec notre invité. Non, c'est le stand-up paddle. Voilà, ça fait fureur un petit peu partout, que ce soit en plastique gonflable ou sur du rigide. On va en parler avec les responsables de la communication, évidemment, du stand-up paddle qui seront avec nous dans une minute.
RTL Soir.
RTL Soir.
Avec Christophe Paco.
Pic de chaleur, on en parle beaucoup avec Anthony Kazmarek ce soir, évidemment, sur RTL. Et en ce moment, il y a un sport qui fait fureur. Oh, pas qu'en ce moment, c'est un sport à la mode. C'est le fameux paddle. Non, non, pas celui avec les raquettes de tennis, là, ou à peu près. Non, non, le paddle sur l'eau pour se rafraîchir, pour faire du sport, pour bomber les muscles, pour se gainer, ou tout simplement pour s'amuser, voire faire des compétitions tout de même. Avec nous, le responsable de la communication de la fédération, c'est Stéphane Sisco qui est avec nous. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est même rentré dans les mœurs, j'ai l'impression, le paddle aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, vous parliez de mode, mais une mode qui dure depuis plus de 12 ans, on peut presque dire que le phénomène est bien ancré maintenant.
C'est du stand-up paddle, c'est comme ça qu'on dit ?
Exactement, alors on a fait une contraction, on va dire, uniquement en France d'ailleurs, hein. Il y a qu'ici qu'on appelle ça le paddle, mais là nous on parle de paddle, de stand-up paddle exactement, puisque paddle veut dire pagayer et stand-up debout, donc on pagaye debout sur une planche de surf aux dimensions maxi.
Ça rame, ça muscle, ça bronze ?
En ce moment, ça bronze, oui, ça bronze pas mal. Mais ça rame. Et alors, ça rame si on a envie de juste de se balader au fil de l'eau, ou ça rame énergiquement si on a envie d'en faire un sport, puisque on peut même aujourd'hui faire des compétitions dans le monde entier avec des championnats du monde. Et le stand-up paddle, la bonne nouvelle, c'est qu'il est devenu sport de haut niveau, reconnu par le ministère des Sports depuis le 1er janvier dernier.
Génial, ça veut dire bientôt les Jeux Olympiques, ce sera à Tahiti, quoi. comme pour
alors,
dans deux ans.
Tahiti, c'est trop tôt. Tahiti, ce sera le surf, ouais. Le shortboard, la petite planche dans les vagues et les tubes magnifiques de Taupo. Le stand-up paddle, on a la Fédération Française de Surf, on a donc la délégation du ministère des Sports pour réglementer, gérer et promouvoir ce sport-là. On croise les doigts pour Los Angeles 2028, évidemment.
Ben oui.
C'est une bonne nouvelle.
Ce serait formidable. Parce qu'il y a de plus en plus de pratiquants. On a un chiffre ?
C'est très compliqué. Ouais. On va faire une étude. On est une petite fédération. On est la 33e fédération olympique. On a ce bonheur. Mais en même temps, c'est quand même très compliqué de faire une étude pour nous. Alors, on avance un chiffre depuis quelques temps d'environ 100 000 pratiquants.
Ah, quand même.
Pratiquants veut dire, je me lève tous les jours, j'ai mon stand-up paddle et je vais ramer. Je vais vraiment en faire pour mon plaisir ou pour du haut niveau, mais veut dire aussi vous avez fait une balade sur la Dordogne ou en Méditerranée ou en Bretagne cet été. Vous êtes considéré comme un pratiquant, même titre que le skieur d'un week-end va être considéré comme un pratiquant.
Il y a des règles aujourd'hui, parce qu'en plus avec les kitesurf au milieu, je ne parle pas des jet skis bien sûr, mais il y a du monde quoi devant les plages, on peut aller jusqu'à combien ?
Alors justement, je parlais tout à l'heure de la Fédération Française de Surf qui a fait un travail assez important là-dessus. Au niveau de la réglementation, il fallait donner un cadre et il fallait justement permettre aux pratiquants de pouvoir naviguer déjà en toute sécurité. On l'a vu, cet été est encore un été de tous les dangers, pas seulement pour les incendies, mais aussi malheureusement pour des noyades. Il y a eu pas mal d'accidents, que ce soit dans l'océan, sur les mers ou en milieu intérieur, sur les rivières ou les lacs. Il fallait donc réglementer tout ça, donner un cadre, et c'est ce qu'on s'est attaché de faire. Alors.
Mais en gros, il ne faut pas aller trop loin non plus, c'est ça ? Et pas non plus tout près des plages ?
Tout près des plages, si on peut. Évidemment, évitons la zone de baignade déjà, mais là, c'est pour tout engin nautique. Mmh. Les baigneurs sont prioritaires au même titre que les piétons, mais évidemment, pas trop s'éloigner, pas au-delà de la bande des 300 mètres. Après, il faut pouvoir avoir l'équipement nécessaire. Idem pour la pratique, parce qu'on parle souvent des plages l'été, mais il y a également des plans d'eau en intérieur. On parlait de rivières, de lacs, de fleuves, sur lesquels on peut pratiquer. Là aussi, il faut faire attention. Il y a des spécificités qu'on rame sur un lac ou qu'on pagaie sur une rivière. C'est pas la même chose.
Mm-hmm. J'ai vu, je sais pas si ça se fait à plusieurs, mais j'ai vu qu'il y avait par exemple du yoga aussi sur ces planches.
Oui, on peut faire pas mal de choses. Il y a des dérivés. Il y a d'autres sports qui se sont mis à essayer de l'utiliser comme support. J'ai même vu des cours de boxe. Mais on vous le disait très bien en intro, c'est vrai que c'est un sport complet parce qu'on va solliciter son corps en permanence. Et c'est très bien pour la santé.
On voulait vraiment parler de ce sport qui est jusqu'à la mode, vous l'avez dit, depuis 10 ans maintenant, on voit à peu près partout. Et c'est vrai que ça fait du bien pour le corps, pour l'esprit, Stéphane Cisco, de ramer tout le temps. On avance à rien. Merci mille fois Stéphane Cisco d'avoir été avec nous sur RTL Soir.
Merci à vous.
Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi et rame.
C'est fou, hein. Il y a le bronzage de l'été en plus, Laurent Marseille pour le plateau télé, aux côtés de Stéphane Echer ce soir. Vous faites du paddle, vous aussi ?
Non, jamais.
Pas de paddle. D'accord, laissez-vous tenter de l'été à venir dans moins de 5 minutes maintenant, juste après notre grande série de l'été.
RTL, les séries de l'été.
Et cette semaine, cette série nous amène sur le front, sur la ligne Maginot. Et on vous propose jusqu'à dimanche, vous le savez, d'en redécouvrir le rôle majeur à l'histoire de cet abri qui ne s'est pas arrêté à l'invasion de 1940. Bonjour Samuel Goldschmidt.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous. Quatrième épisode ce soir, la découverte de la vie des soldats à l'intérieur de la ligne Maginot.
Les soldats qui découvrent la ligne Maginot dans les années 40 n'en reviennent pas. Ce monde souterrain ne ressemble à rien de ce qu'ils ont connu, surtout dans une France encore très rurale à l'époque. Marc Alter est le président des Amis de la ligne Maginot d'Alsace et le directeur de l'ouvrage du Chenambourg.
Alors, mon père était sous-lieutenant dans la ligne Maginot. Quand ils sont arrivés la première fois dans un ouvrage, pour eux, c'était un monde de Jules Verne. Maintenant, on dirait que c'est un monde de science-fiction, tellement c'était moderne. Il y a des cabinets chimiques, il y a des douches, il y a le chauffage central, il y a des cuisines complètement électriques. Et ça, par rapport à la population civile, il y a certains endroits, en Alsace ou en Lorraine, où la ligne Maginot a amené l'électricité.
Il faut économiser les soldats, on va donc compenser le nombre par le progrès. Un ouvrage de la ligne Maginot est d'abord un cocon où les hommes pourront vivre sans dommages, même pendant les combats, avec tout ce qu'il faut pour subsister en autonomie et totalement coupé de l'extérieur, comme dans un navire de guerre. Claude Poésy préside l'association qui entretient le gros ouvrage du Hackenberg en Moselle.
Toutes les portes sont étanches et comme un navire de guerre, on va partir avec nos soutes remplies pour 3 mois de vivres de munitions sans recevoir de ravitaillement extérieur pendant plusieurs semaines si nécessaire. Ce qu'on dit toujours ici, c'est que la seule chose qui nous manque par rapport à un navire, c'est les hélices.
Très vite d'ailleurs, les hommes vont adopter littéralement le fonctionnement de la marine.
On n'appelle pas les soldats du Hackenberg, on appelle l'équipage du Hackenberg. Le commandant, on ne l'appelle pas commandant, on l'appelle des fois le pacha, comme à bord d'un navire. Donc c'est l'équipage du Hackenberg, l'équipage du Mont-des-Welches, l'équipage du Michelsberg, où on donne son nom de code, Ici, c'est le A-19. Comme un navire de guerre est numéroté, hein, les lits sont utilisés par plusieurs soldats, comme dans un navire ou dans un sous-marin. Hein. C'est le même fonctionnement dans les ouvrages.
Il y a des services de car. Les pachas des grands ouvrages vont d'ailleurs faire des stages sur les navires de la Royale au départ de Brest ou de Toulon. Un navire de guerre, pour être autonome, doit avoir ses propres moteurs. C'est exactement le cas du Hackenberg où Claude Poésy nous guide dans la salle des machines.
C'est là qu'on va mettre en route les puissants groupes électrogènes qui vont produire l'énergie nécessaire pour éclairer, chauffer, ventiler tout cet ouvrage pendant 3 mois.
C'est Alain, l'électromécanicien, qui va mettre en route l'un de ces moteurs.
Ce sont des moteurs de péniche, 375 chevaux. 160 litres de cylindré. En ce moment, on a une consommation d'une cinquantaine de litres de gasoil à l'heure. Alors, je vais essayer de vous le lancer. Ah là, ça va faire du bruit.
Le moteur produit du courant qui fait fonctionner tous les systèmes, les armes, les immenses filtres pour éliminer les gaz de combat et les cuisines. Une troupe efficace, c'est une troupe qui a le moral. Et le moral, en France, on l'entretient par la tablée.
Alors, nous sommes ici dans la cuisine. Ce sont des marmites en inox, ultra modernes pour l'époque. Hein. L'inox n'est apparu dans le civil en France que dans les années 60. Grand-mère reçoit sa cocotte minute avec son sifflet, son jouet à d'étanchéité dans les années 60. Eh bien, en 1933, ici, dans la ligne Maginot, on a déjà ces énormes cocottes minutes qui sont chauffées électriquement au bain-marie. On a déjà des fours à viande, on a déjà des hottes aspirantes.
Dans un recoin, il y a une autre nouvelle machine extraordinaire.
Nous avons ici un nouvel appareil qui voit le jour. Dans la ligne Maginot, c'est l'éplucheuse à pommes de terre. Nous avons ici 1000 hommes. Il faut 2 patates à midi, 2 patates le soir par homme. Ça nous fait à peu près 4800 patates. Allez. Avec cet appareil, plus besoin de punir mes soldats. J'en choisis un grâce à cet appareil. Je viens d'économiser 79 soldats qui redeviennent soldats et qui ne feront plus de corvée de pelure de patates.
J'ai deux amours.
Joséphine Becker, Maurice Chevalier, on joue les tubes du moment dans le théâtre improvisé les samedis soirs pour tuer le temps entre les entraînements. En 1939, c'est le branle-bas dans les cuirassés enterrés tout le long de la ligne Maginot. Elle va connaître le baptême du feu qui aura son drame, mais ça, ce sera pour le prochain épisode.
Mais dès demain, Samuel, le 5e épisode, chronique à retrouver de Samuel Goldschmidt, bien sûr, sur RTL.fr. Dans un instant, laissez-vous tenter de l'été.
RTL Soir.
RTL.
Laissez-vous tenter de l'été.
18h45, il est grand temps de retrouver Steven Bellery et Laurent Marsic. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Oui, en pleine forme. Hein. On commence par Steven, ça vous ennuie pas Laurent?
Tout va bien.
Parce qu'en plus, tu sais quoi? On démarre en musique. Et il y a 30 ans... Hey, Laurent s'en souvient comme moi, tu sais Steven. Il y a 30 ans, Stéphane Echer devenait une star en France. Sa chanson, on s'en souvient tous, Dégénère en paix, inondait les ondes FM. C'était l'album Engelberg, plus d'un million quand même d'exemplaires vendus. Pour les 30 ans de cet album, Steven, vous êtes rendu à Engelberg, ce petit village au centre de la Suisse, cher à Stéphane Echer, qui avait enregistré là-bas ce disque.
Ouais, charmant village à 1050 mètres d'altitude. On y arrive depuis Lucerne par un petit train aux vitres immenses. C'est dans le Kursaal qu'il a enregistré son album à l'hiver 1991, une sorte de salle des fêtes. À l'époque, Stéphane Echer a 31 ans. Le Bernois collabore pour la deuxième fois avec l'écrivain Philippe Djian. À ses côtés, les Cadors, Manu Katché à la batterie et Pino Palladino à la basse. Pénétrons avec Dominique Blanc-Francard et Stéphane Echer dans le Kursaal.
C'était moche dans le temps, mais ça sonnait spectaculaire. Quand les groupes se sont électrifiés, ils ont mis, je crois, c'est comme, tu sais, des toiles des pauvres maisons en ondulation et qui a donné à cet espace ce son inouï. Moi, j'aime bien un peu le son pourri. Je vois maintenant le courage qu'on a eu.
C'était vraiment une belle folie parce que ce serait impossible de faire ça aujourd'hui. Nous, on a amené tout le matériel par petits bouts qu'on a assemblé dans la pièce à côté pour faire un premier home studio géant qu'on fait. Ouais. Et alors c'est pas compliqué, soit on réussissait, soit on était viré, parce que ça coûtait tellement cher.
Combien de temps vous êtes resté ici?
Peut-être avec les musiciens, 6 jours, un truc comme ça. C'était chanté en direct. J'ai chanté dans le microphone qui coûte peut-être 100 $, comme ça. Après, on a fait quelques prises avec des microphones un peu plus élégants. Je crois Déjeuner en paix était à la fin fait avec un microphone un peu plus cher. Et il y a des journalistes télévisés qui voulaient une prise de voix. J'ai dit, il y a une chanson qui fonctionne pas du tout, qui s'appelle Déjeuner en paix. Venez, vous me filmez quand je fais une prise. Et je dis à Dominique, enregistre quand même. Et cette prise qui est la connue, c'est pendant qu'un caméraman tourne autour de moi et marche sur les câbles. Et peut-être j'ai eu besoin de ce public très très réduit pour capter la chanson. À la fin, c'était cette prise-là. Et Philippe Tian était là pour suivre que je chante un petit peu en français, pas trop d'accent. Et pour moi, de laisser un apostrophe tomber, je m'en foutais un peu. Lui, il trouvait ça pas du tout marrant. Et il y a une scène où on est filmé. Il trouvait vraiment que je chante pas bien ces mots qu'il a écrits. Et ça l'a fâché, je crois, à la fin. Il voulait vraiment un fusil. Cherche-moi un fusil.
Mais tu ne me dois rien. J'ai eu un mal chien à me faire cette idée, à l'accepter enfin. Est-ce qu'en moi tu m'en sais gré? Chacun poursuit son chemin.
Avec j'aime trop.
Ce qu'on lui a donné. Mais toi, toi, tu ne me dois rien.
Rien, cette chanson est juste magnifique. Hein. Ouais, voilà, chair de poule, quoi. Laurent Marcy, qui est comme moi, il a raison. Steven Bellery, vous êtes sorti un petit peu de la salle et donc vous êtes allé vous promener. Vous êtes cette chance-là, quand même, carrément dans le village de Stéphane Escher, hein, d'Engelberg, Steven.
Ouais, petite station de sport d'hiver, aujourd'hui prisée des familles. Avec Stéphane Escher, on a remonté la rue principale.
Je suis heureux qu'à gauche, ça c'est une vraie vieille maison avec ses murs, avec des bois comme un poisson. Comment on appelle ça? C'est des écailles. Ça c'est une chouette maison, elle est abîmée. Et ça, je me souviens déjà, c'était le magasin qui a vendu des nourritures. Aujourd'hui, ils vendent des pyjamas. Voilà, après ils ont mis ça. On parle de l'architecture des années 80 que... je trouve horrible. Ah, pardon, je dois dire bonjour là.
Hey, wie geht's?
Gut.
Gut.
Voilà, elle, je suis heureux, c'était le magasin des jouets. Et mes enfants ont passé beaucoup de temps ici et c'était une adresse très importante. Je suis content qu'elle est là. Maintenant, ça devient intéressant si ça existe encore. C'est le Alpenclub, club des montagnards. Et on a fait beaucoup de concerts. Une fois pour M6 qui est venu ici. Comment s'appelait cette émission?
Fréquence Star.
Fréquence Star. Et on a fait un concert assez alcoolisé là-dedans. C'est ici, regarde.
Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici en 91 alors?
C'est mon manager Martin Hess. C'est lui qui vient d'ici. Il était à l'école ici. On est devant le monastère. Et il m'a ouvert les portes et m'a donné une espèce de machine de faire fonctionner des rêves. Tu regardes là la montagne, le soleil qui se couche. Il y a une émotion. Personnalité quand même. Et ça a toujours fonctionné. Avant de signer des contrats de disques, on a toujours fait rendez-vous avec les responsables. On les a donné à boire des cafés et des schnapps et puis on a fait des bons contrats. Voilà.
Des Wicked Ways, les mauvais chemins au monastère sur les hauteurs d'Engelberg, il n'y a qu'un pas. J'ai demandé à Stéphane comment il regardait cet album avec le recul.
Je le trouve assez charmant finalement. J'ai écouté les bandes, j'ai trouvé ça un peu naïf, un peu maniéré aussi sur un côté. Je crois qu'il n'y a pas un autre homme qui touchait ses cheveux autant que moi, si je regarde les images. Je ne trouve pas dégueulasse le disque du tout.
Vous chantez pas seulement en français, il y a 4 titres en français uniquement.
Quand j'ai reçu le Victoire de la musique, il y a eu des autres musiciens ou des maisons de disques qui ont dit il ne doit pas le recevoir parce que ce n'est pas un disque français, c'est un disque européen. Ouf. Oui, mais c'était ma fierté de mettre une chanson en bernois, mes chansons en anglais. Ça fonctionne assez bien, tous ces langages. Porter des vêtements différents, mais toujours être soi-même quand même.
On arrive
perdu,
là.
On est totalement perdu. Là, c'est la Brunibahn.
Téléphérique.
Où j'ai un document que... toute ma vie et toute ma famille peut voyager gratuitement. Mais le truc est si vieux que je voulais le faire. Ils ont dit « Oui, mais il faut le scanner ». J'ai dit « Mais non, c'est pas scannable, c'est écrit sur une peau d'animal » ou un truc comme ça.
Vous êtes citoyen d'honneur ici, maintenant ?
J'étais un moment et après, la politique a changé.
On est perdu ou ?
Non, on n'est pas à côté. C'est sur ce bout de rocher-là qu'on a fait l'affiche et la photo. Sur la droite, et après, il y a le glacier. Mais il a rétréci le glacier-là, qui était vraiment peut-être 200 mètres plus bas.
Est-ce que vous diriez que Engelberg a été votre premier album rock ?
Ah oui, dans le sens que c'est la première fois qu'il y a un groupe qui joue finalement.
C'est un album de groupe en fait.
Oui, oui.
Donc vous étiez le chanteur.
Le jeune chanteur, pas très expérimenté. Voilà.
Là, vaut mieux pas tomber dans la rivière.
Non, non, on fait attention.
Ha. personnage, hein. Extraordinaire rencontre. Et dans cet album Engelberg, c'est vrai qu'à l'intérieur, on s'en souvient, il y avait deux énormes tubes de Stéphane Escher. Hein.
Ouais, déjeuner en paix et pas d'amis comme toi, ami écrit au masculin.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi.
C'est des accords qui, je dois les avoir piqués quelque part. Parce que c'est pas mes accords. Parce que moi j'ai une suite d'accords qui me sort tout le temps. Et pas d'amis comme toi. Je crois que c'est un hommage à une amitié où c'est troublant l'attirance érotique et on la laisse pas passer, quoi. On préfère d'avoir l'ami. Viens, on va voler ce cheval-là. Viens, on le fait. Cet ami-là est de temps en temps plus important que l'ami qu'on dit viens, on monte dans la chambre ensemble. Je crois que la chanson joue avec ces images. On est arrivé là. Il y a les vaches là.
Je n'ai pas l'ami comme toi. Non, 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 pas d'autre ami comme toi.
Quand vous avez reçu le texte de Déjeuner en paix, ça a été quoi votre première réaction?
C'est impossible à chanter ce truc. Et après, il y a eu la guerre du Golfe. Et je crois avec la pandémie, c'est encore pire. On peut plus de mauvaises nouvelles. Après, j'ai pas tout compris. Ça a pris longtemps jusque j'ai remarqué que me ferais-tu un bébé pour Noël? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un jeu de séduction? Ou est-ce que le personnage féminin dit « il faut qu'on trouve le sauveur là, il faut qu'on crée le Jésus-Christ du futur » parce qu'on est dans un merde compliqué. Mais c'est ce moment-là où Pino Palladino à la basse, Manu Katché à la batterie, qui ont regardé ce jeune homme et ont dit « viens, on va lui donner des ailes », ce qu'ils ont fait pendant 3-4 minutes. Et je l'ai pris. Parce que le disque est devenu un disque plus grand que moi. Engelberg, TGNP, c'est plus grand que mon personnage.
Merci Stéphane okay, Escher. Cool.
Merci d'avoir pris tout ce chemin, de me voir ici. Quand même, c'est pas à côté.
Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Engelberg, l'album culte de Stéphane Escher, vient de ressortir.
Déjeuner en paix.
J'adore votre métier. C'est bien de se promener, c'est un peu comme Bernard Leluc, les écrivains, hein, Laurent Marsic.
Exactement.
Merci Steven Bellery, vous fermez la porte comme d'habitude en sortant, c'était génial. Hein. Déjeuner en paix, merci à vous. La télé, parce qu'on est en train de déjeuner, mais ce soir, on va regarder ce qui se passe. Il y a quoi ? Fiction, docu, cinéma, Laurent Marsic ?
Exactement, l'été c'est aussi le moment où on peut redécouvrir quelques perles qu'on a loupées pendant l'année, voire ces deux dernières années. Par exemple sur France 2 ce soir, avec une pièce de théâtre qui a été un vrai succès au théâtre de la Michaudière à Paris. Ça s'appelle Le Canard à l'Orange, c'est ce qu'on appelle du théâtre de boulevard. À l'origine, c'est du burlesque anglais, je ne suis pas sûr qu'on dise théâtre de boulevard là-bas aussi, puisque l'auteur est anglais. Elle a été adaptée dans les années 70 par Pierre Mondy, avec Jean Poiret, et la voici donc réadaptée en 2019 par Nicolas Briançon. L'histoire en un mot, c'est un présentateur vedette de la BBC qui fait comprendre à sa femme, jouée par Anne Charrier, qu'il a découvert qu'elle avait un amant, et pour lui éviter un divorce douloureux, il lui propose de prendre tous les torts à sa charge en se faisant, à son tour, surprendre en plein adultère avec sa secrétaire.
Je suis navré, Hugues, j'aurais dû t'avouer tout ça il y a pas mal de temps déjà.
Je travaille à la BBC, chérie. Il est tout à fait normal que ce soit la télé qui m'ait appris que je suis cocu. Et il s'appelle comment, le gagnant du Grand Prix?
John Van Brunlow.
Van Brunlow? Il est belge?
Son père est belge, sa mère est l'héritière d'une vieille famille du Kent.
Ah, c'est un croisement, donc.
Voilà, c'est drôle et efficace, Le Canard à l'Orange, France 2, 21h. Autre moment souriant à voir sur France 5 avec la rediffusion des trains par comme les autres. En Géorgie, Philippe Googler embarque dans un train assez curieux à la rencontre d'un peuple pas comme les autres, aux coutumes parfois très tendres, comme ici lorsqu'un jeune homme l'entraîne avec lui. Il s'apprête à faire sa demande en mariage à l'ancienne.
La tradition en Géorgie veut qu'on fasse la demande en mariage en bas de chez la fiancée. On lui chante alors une chanson, une sérénade. Et si elle sort sur son balcon et qu'elle descend me rejoindre, alors c'est plutôt bon signe. Et ça voudra dire qu'elle accepte ma demande. En revanche, si elle ne descend pas, eh bien, j'ai pas très envie d'en parler.
C'était pas et là, on voit la jeune fille qui arrive au balcon, qui regarde, qui comprend qu'il y a son fiancé en bas. On la voit foncer dans l'autre sens. Elle descend, ils s'embrassent et l'aventure est partie. France 5, 21h.
Vous êtes un romantique ce soir. Un peu de suspense ce soir aussi.
Oui, alors en mode enquête et filature, rediffusion sur France 3 d'une fiction intitulée Amour à mort, qui est aussi une plongée dans le passé de la Moselle où ce polar a été tourné. C'est un polar assez efficace. Et puis du suspense enfin avec un monument du cinéma qui révéla un jeune acteur du nom d'Alain Delon. Ah. C'est sur TMC, adaptation du talentueux Monsieur Ripley par René Clément en 1959. Ça s'appelle Plein Soleil, un duo merveilleux, Alain Delon, Marie Laforêt.
Vous savez, Tom, je vous aime bien, je n'ai pas l'intention de vous faire de la peine. Quand nous arrivons à Taormine,
Vous aimeriez mieux que je m'en aille?
Oui. Quand nous sommes seuls, il n'est pas du tout pareil. Croyez-moi, Tom, rentrer chez vous, ça vaut mieux. Je suis désolée, vous comprenez?
Oh, parfaitement. Je comprends que vous aimez un Philippe qui n'existe pas.
À la TNC, 21h10.
Et une annonce ciné-télé pour terminer.
Ben on va rester dans le culte parce que Fantomas va bientôt faire son retour sur le grand et le petit écran. Voilà, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le président du directeur du groupe M6, Nicolas Taverneau. Le producteur de Boîte Noire et du biopic à venir sur l'Abbé Pierre, Wassim Béji, ainsi que SND, la filiale cinéma d'M6, ont acquis les droits d'adaptation des romans de Pierre Souvestre et Marcel Alain qui ont été publiés au siècle dernier. Il s'agira d'un retour aux sources de Fantomas, donc plutôt sombre. En tout cas, loin de ce qu'en avaient fait Jean Marais et Louis de Funès. On a hâte de voir ça.
Formidable.
Cinéma et série télé.
Très très belle info.
55 ans qu'on n'avait pas eu.
Merci Laurent Marsic. À votre avis, est-ce qu'on a le temps d'aller jusqu'à 19h ou non? On peut demander à Stéphane Escher? Oui. Allez. C'était Laissez-vous tenter de l'été avec Steven Bellerive et Laurent Marsic. À demain matin et demain soir dans RTL Soir. À tout de suite pour la météo.
RTL Soir.
Juste avant 19h, un temps encore très très chaud et sec qu'Anthony Cazemarek, on l'imagine.
Oui, ça ne change pas, situation toujours bloquée avec toutefois quelques brumes le matin vers la Normandie, le Pays Basque et le Golfe du Lion et dans l'après-midi, quelques averses sur le Mercantour, le relief corse, voire un orage sur les Pyrénées et des entrées maritimes arriveront vers le Pays Basque en toute fin de soirée. Les températures toujours très élevées dans l'après-midi. Le matin aussi, on sera souvent aux alentours de 20 degrés. L'après-midi, 32 à Strasbourg, 34 à Paris et Lille, 36 à Rennes et Brest, 37 à La Rochelle, 39 à Toulouse, 40 degrés pour Albi et Montauban et toujours 19 départements de l'Ouest en vigilance orange canicule.